Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale
dans les fonds marins. Avec vous cette semaine, Florence Westgaard, pour vous parler d'espèces marines et d'espèces tout court. Êtes-vous prêt pour ce chiffre tout à fait surprenant ? Selon les chercheurs, 8,7 millions d'espèces vivantes existeraient sur notre bonne vieille Terre. Un chiffre tout à fait impressionnant et qui tranche avec les 1,2 millions d'espèces déjà formellement identifiées par les scientifiques. Aussi, notre chère planète bleue compterait à elle seule pas moins de 2,2 millions d'espèces marines et 6,5 millions d'espèces terrestres. D'où le décompte des 8,7 millions d'espèces vivantes sur Terre. La recherche sur les espèces marines a été entreprise par une équipe du recensement de la vie marine. Il s'agit d'un projet sur 10 ans impliquant 2700 scientifiques et comprenant 80 pays. Avec pour objectif l'évaluation de la diversité de la vie dans les mers et les océans. Les chercheurs voulaient aussi essayer de prédire ce que sera la vie marine de demain. Myriam Sibué, qui a fait partie de cette équipe, est l'invitée de cette édition d'Escale.
Je faisais partie de ce programme international Census of Marine Life, qui veut bien dire recensement de la vie marine. Donc un premier effort de recensement a été fait et unique jusqu'à présent pour estimer, pour avoir le nombre exact d'espèces valides, connues, cataloguées, inventoriées dans des bases de données. Mais il restait toujours une expectative sur quel est le nombre réel d'espèces qui existent, qui restent encore à découvrir et qui restent à décrire. Donc l'estimation qui a été faite montre que cet inventaire est encore loin de la réalité. Il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, on a moins de 10% des espèces connues sur la Terre. Donc l'estimation aujourd'hui de 8,7 millions d'espèces totales est une analyse très très précise, statistique, fondée sur les données existantes et sur le nombre d'espèces appartenant à chaque catégorie, chaque famille, selon la classification zoologique, une classification créée il y a 250 ans par l'INE. Donc on respecte toujours cette classification, mais au sein de cette classification, on fait reconnaître des embranchements, des familles, des genres et des espèces. Mais on est loin d'avoir le nombre exact d'espèces. En revanche, on peut savoir quelle est la proportion d'espèces dans les différentes familles, dans les différents embranchements. Et partant de ces estimations de pourcentage dans les différentes catégories, on peut estimer par des modèles très sophistiqués et de plus en plus précis l'estimation et le nombre d'espèces qui pourraient exister sur Terre. Donc il faut bien voir la différence entre un inventaire et une estimation. Mais cette estimation n'est valable que si l'inventaire apporte de plus en plus de précision et il est important de poursuivre de tels inventaires et de telles descriptions. Au fond, le résultat majeur de la mise en évidence de 8,5 millions d'espèces alors qu'on n'en connaît que 1,2 million montre tout le pas qui reste à faire en recherche pour découvrir ces espèces au fond, avant qu'elles ne disparaissent.
Et justement, ça allait être ma question. Pourquoi donc ces chiffres et ces recherches sont-elles si importantes ?
Alors d'abord, je crois que tout le monde doit comprendre que l'on doit connaître un petit peu ce qui existe sur la Terre, parce que la Terre, c'est un ensemble d'écosystèmes qui fonctionnent. Et si la vie sur Terre existe, qu'elle soit humaine ou sous toutes ses formes jusqu'au niveau bactérien, c'est bien un ensemble, c'est comme une machine, un mécanisme qui fonctionne ensemble. Et chacun a un rôle, donc chaque espèce a son rôle. Aujourd'hui, nous sommes loin d'avoir une connaissance du rôle de chacune de ces espèces, puisqu'on ne connaît même pas encore, dans certains cas, leur existence. Or, tout a un rôle, elles ont toutes un rôle. Et c'est pour comprendre la valeur et l'importance de la biodiversité qu'il est important de poursuivre ces recherches et peut-être même de les accélérer. Il y a des domaines qui sont plus inconnus que d'autres. Quand on a regardé dans le cadre du programme Census of Marine Life ce que l'on savait sur les océans, il est évident que l'on a vu des secteurs océaniques qui sont moins connus que d'autres. Si on parle des océans profonds, qui était ma spécialité, on peut dire qu'il y a moins de 1% de l'océan profond qui est connu aujourd'hui, et c'est certainement des endroits tels que les fosses océaniques, les plaines abyssales, les marges continentales très complexes à étudier, qui restent à explorer.
Thank you. Et donc vous me disiez, votre spécialité, c'était un peu les espèces maritimes. Donc, comment vous faites ces recherches?
Alors, il faut prélever. Il faut prélever par tous les moyens. Donc, il y a des techniques sans doute aisées en milieu côtier, littoral, mais plus on va vers le profond, la nécessité de navires océanographiques et la nécessité d'avoir des navires océanographiques très fonctionnels avec les outils les meilleurs pour prélever, observer, parce que tout est ensemble. Il faut mesurer, il faut savoir précisément où on prélève. Donc, il faut des positionnements très précis, il faut des mesures de grande valeur, et ceci s'obtient avec des moyens de prélèvement à bord de ces navires océanographiques, qui sont les prélèvements d'eau, les prélèvements des grandes espèces dans l'océan, et y compris des caroutiers ou des dragages ou des chaluts qui permettent de prélever la vie au fond de l'océan. Alors, il existe aussi les sous-marins, parce que les sous-marins nous ont apporté également énormément, parce que pour la première fois, on voyait. Et ces sous-marins, dont j'ai même eu le plaisir d'initier les premières plongées en biologie en France avec Siana et puis plus tard avec Nautilus, nous a permis de nous rendre compte de la vie et de la diversité de la vie dans les grands fonds, notamment dans les zones les plus exubérantes. Et l'une des découvertes quand même majeures de ces 30 dernières années, c'est la découverte des sources hydrothermales et quelques années après, de sources d'écosystèmes luxuriants comme au niveau des sources hydrothermales qui vivent sur les marges continentales, aux dépens de méthane, aux dépens de flux de méthane, de fluides qui arrivent au fond de l'océan et qui développent une vie à partir de la chimiosynthèse. Ça aussi, c'est une découverte. Donc, découvrir des écosystèmes qui fonctionnent autrement avec une autre source de carbone est quelque chose de très important pour le fonctionnement de l'océan.
Et donc, justement, ces nouvelles espèces, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Est-ce qu'elles peuvent aider à peut-être combattre, par exemple, la faim? Qu'est-ce qu'on attend donc de toutes ces recherches?
Alors, bon, je pense qu'il y a d'abord, il faut toujours comprendre qu'on ne peut pas vivre sur la Terre dans l'ignorance, en ne sachant pas ce qui comporte notre environnement. On sait depuis longtemps que c'est parmi les molécules, que ce soit des plantes, des bactéries, de virus ou d'animaux marins sous toutes leurs formes, que l'on peut extraire des molécules. On sait bien qu'une forme de biotechnologie peut se développer à partir de ces molécules. Mais sans la vie et sans cette vie qui permet à l'océan d'être notre poumon de la Terre, la vie ne serait pas possible. Donc il faut aussi voir que l'océan est un poumon. Et c'est l'ensemble des espèces qui y ont un rôle, de la plus petite, même sans doute les plus petites, qui ont un rôle primordial et qui sont les moins connues.
Et justement, y a-t-il des endroits plus propices pour ces prospections?
Alors, grâce aux découvertes de ces dernières années, de plus en plus en relation avec les bonnes performances en acoustique pour détecter les zones de grande activité biologique dans l'océan, par exemple, ou en liaison avec les explorations et les compréhensions de la tectonique des plaques, on a pu mettre en évidence des zones soit liées à la subduction, soit liées à l'accrétion, qui sont des zones particulièrement importantes à observer. Donc on localise de plus en plus, mais c'est un ensemble de connaissances de différentes disciplines qui souvent nous amène à nous focaliser dans certaines zones, plus particulièrement.
Et donc, vous me parliez de votre travail. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes impliquée dans ce projet et quel est un peu votre parcours?
Alors, donc, au début, je suis donc océanographe biologiste. Je me suis intéressée aux échinodermes, c'est-à-dire les astéries, les holothuries, les oursins, les ophiures. Et tout cet embranchement, qui est un embranchement marin uniquement, qui n'existe donc pas sur Terre, m'intéressait parce qu'il avait développé des adaptations particulières dans les grands fonds océaniques que nous explorions autrefois en France, au sein de l'Institut qui s'appelait CNEXO, puis plus tard IFREMER. Donc ensuite, on a développé des recherches, non seulement moi toute seule, mais avec toute une équipe. C'est vraiment un travail d'équipe qui a été mené pour explorer de manière rationnelle les grands fonds, mais en s'accompagnant de plus en plus de mesures et de prélèvements permettant de caractériser l'environnement, de savoir quelles étaient les espèces, mais quelles étaient caractérisées l'aspect physique et chimique de l'environnement de ces espèces. Donc c'était des approches environnementales qui avaient pour but de comprendre en fait un écosystème profond, comment il fonctionnait avec toutes ses composantes biologiques, physiques et chimiques. Très naturellement, quand le programme Census of Marine Life s'est développé, j'avais des contacts privilégiés avec le promoteur du programme, Fred Grassley, que je connaissais depuis longtemps, parce que lui aussi s'intéressait aux grands fonds marins. Et j'ai été séduite par ce programme qui, pour la première fois, montrait qu'il fallait s'organiser dans le monde entier pour réunir toutes les informations aujourd'hui disponibles et pour lesquelles nous n'avions aucune base de données réelle. Chaque laboratoire avait sa source de données ou chaque chercheur pouvait avoir ses fiches avec les connaissances qu'il avait, mais rien n'avait été archivé et réuni. Donc cet effort unique jusqu'à présent m'a séduit et j'ai mis beaucoup d'ardeur à ce que ce programme contribue avec tous les collègues, puisqu'il y a plus de 2700 chercheurs qui ont contribué à un tel programme, aboutisse.
Et donc, qu'est-ce que cela va apporter à notre existence en tant qu'être humain de connaître toutes ces espèces ?
Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années avec toutes les découvertes qui ont été faites, parce que la biologie, elle ne comprend pas que des molécules actives, mais elle permet aussi d'embellir notre vie et on aurait du mal à imaginer une terre sans cette diversité animale, végétale. Elle nous apporte déjà ce plaisir, mais elle nous permet, ce que les gens ne savent pas, de vivre correctement tant qu'on respecte cette diversité biologique.
Vous pouvez me donner aussi quelques chiffres, combien d'espèces marines ?
Donc dans l'effort actuel, on considère qu'il y a 1,2 million d'espèces décrites, hein, c'est-à-dire d'espèces décrites, cataloguées de manière très conventionnelle selon les règles de la zoologie, selon cette description à partir des critères de l'INE, qui date d'il y a plus de 250 ans. Il y a parmi ces espèces d'espèces valides, il y a probablement la moitié qui vit en mer, mais dont nous n'avons aujourd'hui qu'un quart de la connaissance de ces espèces marines réellement. Et donc aujourd'hui, on considère qu'il resterait à décrire plus de 91% d'espèces marines.
Quelles sont les prochaines étapes de ce projet ?
Alors, ce projet, d'abord, il faut bien expliquer que Census of Marine Life est un projet de 10 ans. Il avait pour but un recensement. Mais ce recensement, il était possible à travers toutes les études qui étaient menées dans tous les pays. Et ces études pourront se poursuivre dans chaque pays. Mais le lien qui avait été créé par Census of Marine Life, celui-ci, il va se maintenir de manière individuelle entre les chercheurs qui ont appris à travailler ensemble. Mais il n'y a plus de réseau constitué ou financé puisque le programme Census s'arrêtait à la fin 2010. Ensuite, c'est des prolongations de coopération et qui sont en train de se construire, qui, on espère, trouveront le financement nécessaire pour aboutir à ce même effort d'études en bonne concertation, bonne coopération et qui font faire avancer nos recherches.
Et vous travaillez avec certaines organisations ?
Alors, de toute façon, toutes les recherches se font au sein d'instituts, laboratoires universitaires, instituts de recherche, et Census of Marine Life a favorisé la coopération entre les chercheurs de ces différents laboratoires destinés à l'étude des espèces marines, en l'occurrence. Maintenant, le travail qu'a fait notre collègue Camilo Moura avec ses collègues, il n'a pas seulement regardé la base de données qui s'appelle le Registre mondial des espèces marines, il a également regarder le catalogue de la vie sur Terre pour avoir vraiment une vision globale de la vie à la fois sur Terre et en mer. Mais en mer, c'est vrai que le réseau Census of Marine Life a créé un mouvement unique. Alors, il s'arrête pour des raisons de financement, mais il faut espérer que toutes les coopérations, et on va œuvrer dans ce sens, que toutes les coopérations qui avaient été créées, tout le réseau humain exceptionnel qui a été créé, se maintiendra. Il faudra certainement des financements venant de coopérations, venant de certainement d'alliances entre des différents organismes pour poursuivre de telles missions ambitieuses qui permettent l'exploration, la découverte, puisqu'il reste beaucoup à découvrir, et un bon catalogue de toutes les connaissances.
Retour sur Terre. Myriam Sibué, du recensement de la vie marine, était l'invitée d'Escale cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale ainsi que l'information en continu de la radio de l'ONU en vous branchant sur radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre écoute et de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle Escale.